chapitre 24. Le 17 août 2016, 10 heures. Je t'attendais, Clotilde. Je pensais même que tu viendrais avant. Que c'est moi que tu voudrais revoir en premier. Clotilde observait la mer à travers la vaste baie vitrée de la Villa Punta Rossa. Le point de vue était toujours aussi vertigineux. La maison donnait l'impression d'être accrochée à la falaise et qu'il suffisait d'ouvrir la porte-fenêtre pour plonger dans la Méditerranée. En pivotant et en fixant la verrière opposée, c'est l'ensemble des crêtes de la Balagne que l'on découvrait. Notre-Dame de la Serra au premier plan, le Capo di Aveta au second et le Monte Cinto au dernier. Une merveille intemporelle. Seule Natale avait vieilli, bien vieilli. Elle fit quelques pas sur l'estacade qui s'avançait au-dessus des rochers de la Punta Rossa, veillant toutefois à ne pas être aperçue des quelques touristes qui se tenaient près du phare. Elle avait raconté à Franck qu'elle allait voir les flics à la brigade de Calvi pour demander au capitaine Cadena s'il avait du nouveau pour son histoire de portefeuille. Après tout, elle n'avait menti qu'à moitié. Une fille de flic vivait ici, du moins quand elle ne prenait pas son service à l'antenne médicale d'urgence de Balagne. Aurélia Garcia était devenue infirmière au centre hospitalier de Calvi. Commençait tôt, ne rentrerait pas avant midi. Natale lui avait proposé un café. Elle avait accepté. Natale traînait. Briser la glace prendrait du temps. Clotilde laissait le vent ébouriffer ses cheveux. Elle était bien sur la terrasse. Elle n'avait aucune envie de retourner à l'intérieur de la villa. D'ordinaire, pensa-t-elle, les maisons sont banales de l'extérieur. Des pavillons jumeaux dans des lotissements standardisés, des appartements semblables, même dans les quartiers les plus bourgeois. Mais derrière ces façades maussades se cachent des intimités dévoilées, des pièces où chaque objet posé, chaque cadre accroché, chaque livre exposé révèle une identité. Avec goût, avec âme. Tout l'inverse de la Punta Rossa. L'étrange chalet posé sur les rochers rouges, uniquement bâti de bois et de verre, avait été élevé par Natale, planche après planche, vitre après vitre, lorsqu'il avait à peine 20 ans. Il ne pouvait être occupé que par un être d'exception. Au moins, aux yeux des randonneurs qui découvraient la bâtisse du haut du sentier des douaniers. Chaque détail avait été pensé avec originalité. Des coquillages incrustés dans les piliers aux dauphins sculptés dans les poutres. La Villa Punta Rossa avait 1000 fois été prise en photo, googlisée et facebookée. Clotilde avait pu le constater toutes ces années passées à taper Punta Rossa sur un moteur de recherche et à rêver, à fantasmer sur cette petite merveille d'architecture et sur son bâtisseur. Pourtant, quel randonneur aurait pu soupçonner que dans ce chalet se dissimulait le plus kitsch, le plus banal, le plus douteux des décors intérieurs. Au-dessus de cubes Ikea déclinés sous les formes les plus diverses, bibliothèques, meubles télé, buffets, tabourets, tables basses, quelques affiches tentaient de colorer la blancheur laquée du mobilier. Baiser de Klimt, le son de piano de Renoir, Nymphéa de Monet. Ton café, Clotilde. Natale lui avait dit qu'il était un peu pressé. Il prenait son service à 11 heures. Il était chef du rayon poissonnerie du Super U de Lumio. Me regarde pas comme ça, Clotilde.
Comme quoi?
Comme si t'étais déçue par tout ça, par moi.
Pourquoi? Pourquoi serais-je déçue?
N'en rajoute pas. Il s'éloigna et revint quelques secondes plus tard avec un verre à la main. Un gobelet de la taille d'un dé à coudre, empli à ras d'un liquide rose. Liqueur ou médicament? Natale devait avoir un peu plus de 50 ans. Clotilde le trouvait toujours beau, plus beau encore qu'à 25 ans. Désabusé, mélancolique, presque cynique. Elle quitta la terrasse pour le rejoindre dans la villa. Une photo d'Aurélia était accrochée au-dessus d'un buffet à vitres coulissantes où s'exposait une collection de coquetiers, de rondes serviettes et de boîtes à thé. Clotilde fixa ostensiblement le cliché. Aurélia souriait, robe griffée, peau bronzée, sourcils épilés.
Je ne suis pas déçue, Nathalie. C'est juste que je n'aurais jamais cru.
Moi non plus. Il se retourna. Son dé à coudre était déjà vide, puis plein. Clotilde avait repéré la bouteille cette fois, et pas sur l'étagère de l'armoire à pharmacie. Alcool de myrte, 40 degrés, cave Damiani. Clotilde ne pouvait pas en rester là, pas après toutes ces années.
Nathalie.
Trop tard pour reculer. Elle détourna les yeux du portrait d'Aurélia.
Nathalie, je peux bien te le dire maintenant. Il y a prescription, comme on dit. Tu sais, toutes ces années, même si on ne s'est jamais écrit, téléphoné, contacté, tu étais là pourtant. Tu m'as accompagnée. Je ne te parle pas de l'été 89 du haut de mes 15 ans, de nos balades en bateau, de la baie de la Révélata. Je te parle d'après, de ma vie d'après. Tu étais la preuve que tout est possible, Nathalie. Comment te dire? Une sorte de boussole qui indiquerait un cinquième point cardinal, quelque part du côté des étoiles.
La réponse cingla.
T'aurais pas dû, Clotilde. Je ne le méritais pas. C'est ça la vie, voir ses idoles d'adolescence vieillir avant soi.
Les voir te décevoir, les voir crever avant toi.
Au point où j'en suis, pensa Clotilde, autant vider jusqu'au bout le vieux coffre à jouets. N'empêche, j'étais amoureuse de toi.
Un nouveau dé à coudre se vida.
Je sais, mais tu avais 15 ans. Ouais, et je collectionnais les têtes de mort. Je m'habillais comme un zombie, j'aimais les fantômes.
Nathalie se contenta de hocher la tête. Clotilde continua.
Toi, tu étais amoureux de ma mère, ça me rendait folle, rien que pour mon père.
Nathalie s'approcha de Clotilde. Il sembla hésiter à poser une main sur son épaule. Tu détestais trop ta mère, et tu aimais trop ton père. En toute logique, ça aurait dû être l'inverse, mais à 15 ans, tu ne comprenais pas tout. Clotilde se recula, presque jusqu'à l'estacade. Le sous-entendu de Nathalie l'avait surprise. Tu ne comprenais pas tout.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Rien, Clotilde. Rien. Ça ne sert à rien d'éclairer les vieilles zones d'ombre. Laisse tes parents dormir en paix. Le regard de Nathalie délaissa la Méditerranée, se tourna vers la montagne pour se perdre jusqu'au Capo di Aveta.
Je ne détestais pas ma mère, continua Clotilde. J'étais jalouse, c'est tout. C'était si ridicule quand on y pense. Si ridicule face à ce qui s'est passé.
Un instant, les yeux de Nathalie s'allumèrent, et Clotilde eut l'impression d'avoir à nouveau 15 ans. Nathalie lui répondit tout en détournant le regard.
Tu étais stupide, surtout.
Tu me plaisais bien avec tes habits noirs, ton look d'adolescente rebelle, ton cahier et tes livres que tu serrais sous ton bras.
Une insoumise, comme moi.
Dans un autre genre, dans une autre couleur. D'autres mots cognaient dans la tête de Clotilde. Des mots prononcés par Nathalie, dans une autre vie, sur la plage de l'Ochelucha. Des mots qu'elle n'avait jamais oubliés. On est de la même race, Clotilde. Les pêcheurs de rêves contre le reste du monde. Nathalie remplit un nouveau dé à coudre, s'installa dans un affreux fauteuil en velours aubergine, puis continua.
J'ai vu Beetlejuice depuis. J'ai revu Edouard aux mains d'argent aussi. J'ai repensé à chaque fois à toi, cette folle de Lydia Dietz qui parlait aux fantômes. Tu es toujours aussi dingue de Winona Ryder?
Pas qu'un peu, mon amoureux.
Carrément. Je l'ai revue dans Black Swan avec ma fille Valentine, il y a 5 ans. Elle n'a pas aimé ni le film ni les actrices. Moi, j'ai adoré.
Un nouveau dé à coudre. Ça commençait à faire beaucoup, même si la ligne de flottaison du flacon des caves Damiani n'avait pas tant baissé. Clotilde enchaîna. Des bribes de complicité revenaient.
Tu sais que Winona Ryder n'avait pas 18 ans quand elle est tombée amoureuse de Johnny Depp, qui en avait presque 30? Ils sont restés ensemble 4 ans, se sont fiancés. Johnny Depp était tellement fou amoureux qu'il s'était fait tatouer Winona Forever sur le bras. Tu le crois, ça?
Nathalie ne répondit rien. C'était déjà une forme de réponse, surtout quand on connaissait la suite de l'histoire. La rupture de Winona et Johnny.
Johnny, qui modifie son tatouage, à défaut de pouvoir l'effacer, et le transforme en Wino Forever. Ivrogne pour toujours. Les mythes de l'adolescence. Y croire, décevoir, déchoir. Les mythes qui se noient dans le myrte. Nathalie n'avait plus rien à dire. Clotilde, si. Elle n'allait pas abandonner la partie si facilement. Elle observa Nathalie, assis dans le fauteuil trop bas pour lui. Pas sûr qu'il puisse se relever pour aller vendre des bulots et des cabillauds dans son rayon surgelé. J'ai revu Maria Tiara hier soir. Elle chantait Plage de Lochelucha. Je sais, difficile de rater les affiches. Elle chantait plutôt bien d'ailleurs. J'ai revu Larion aussi. Je me doute. Il est toujours amarré. Faut croire que lui aussi s'accroche. Nathalie tenait son mini-verre vide, comme s'il n'avait plus assez de force pour le remplir. J'ai revu Cervone aussi. À vrai dire, je le vois tous les jours. Je loge au camping des Euproctes. Orsou aussi, même si je ne l'avais pas reconnu. Papé Cassanou, forcément. Mamie Elisabetta. Je ne me souvenais pas non plus de Speranza, mais...
Tu cherches quoi, Clou ?
Te provoquer, te faire réagir. Éclater cette bouteille de myrte contre les murs et te faire basculer dans la Méditerranée pour te dessouler. Te parler de tous ces mystères qui me tordent le ventre. Te demander de m'aider, toi. Toi le seul en qui j'ai confiance. La vérité. Ça te va, ça, Nathalie ? La vérité ? Je peux tout te déballer là, si tu veux. Tout ce qui ne va pas depuis que je suis revenue à la Ravelata. Le sergent Garcia, ton beau-père, qui m'apprend que la direction de la Fuego de mes parents a été sabotée. On m'a volé mes papiers aussi, dans le coffre fermé de notre bungalow, sans effraction. C'est impossible, mais ça s'est pourtant produit. Et ça paraît presque normal à côté du reste. Les lettres. Tu vas me prendre pour une folle, toi aussi, mais tant pis. J'ai reçu des messages de l'au-delà, des messages de Palma. Nathalie tremblait. Sa main posa le dé à coudre sur la table la plus proche, comme s'il le brûlait. Répète ça. Une lettre. Elle m'attendait au bungalow C-29, déposée là il y a une semaine. Une lettre que seule ma mère a pu m'écrire. Elle se força à rire. Un coup à se mettre à croire aux fantômes, tu ne trouves pas, Nathalie? Si seulement j'avais encore le don de Lydia. Nathalie se leva. Il s'avança avec détermination, comme brusquement dessoulé.
Ils existent, Lydia.
Lydia ?
Clotilde, je veux dire. Ils existent.
Qui ?
Les fantômes.
Non, visiblement, ils n'avaient pas dessoulé.
Je vais te faire une confidence, Clotilde. Un truc que je n'ai jamais osé raconter à personne, encore moins à Aurélia ou à son père. Si j'habite dans cette maison comme une prison, si je vis avec Aurélia, si j'ai renoncé un à un à tous mes projets, c'est à cause des fantômes. À cause d'un fantôme en particulier. C'est toi qui avais raison, Clotilde ou Lydia, comme tu veux. Les fantômes existent, et ils nous pourrissent la vie. Je sais bien que tu vas me prendre pour un dingue, mais je m'en fiche. Maintenant, faut que tu y ailles. Aurélia rentre ce midi. Je ne pense pas qu'elle aimerait te trouver là. Hors de question.
Nathalie se foutait de sa gueule. Qu'est-ce que tu fiches avec elle? Et ne viens pas me parler des fantômes.
Il leva les yeux et, par la baie vitrée, fixa la croix en haut du capot d'Iaveta. C'est amusant, Clotilde. Tu as vieilli plus que moi, au fond. C'est toi qui aujourd'hui ne crois plus à l'étrange, à l'irrationnel, malgré tous les signes. Mais puisque tu ne veux pas entendre parler de ce fantôme, je vais simplement te dire que j'avais mes raisons de céder aux avances d'Aurélia. De bonnes raisons. Des raisons impérieuses. La brève étincelle dans ses yeux s'était définitivement éteinte. Tu sais, continua-t-il, les couples de raisons, ceux qui commencent sans attirance, sans illusion, sont ceux qui durent le plus longtemps. Pour une raison simple, Clotilde. Une raison implacable. Parce qu'on n'est pas déçu. Parce que ça finit par être mieux que ce à quoi on s'attendait. Qui peut dire ça d'une histoire d'amour, hein? Qui peut dire ça d'une passion? Que c'est mieux à la fin qu'au début? Une voix hurla dans la tête de Clotilde.
Au secours! Pas toi, Nathalie, pas toi! N'importe qui a le droit de me sortir ce discours, n'importe quel connard, mais pas toi. » Des années, quand tout allait mal, elle avait pensé à lui. À Natal et Angeli, un pêcheur de sirènes, un apprivoiseur de dauphins. Un homme qui croyait aux étoiles, à son rêve aussi grand que l'océan. Capable de transmettre cette foi à une gamine, capable de lui faire croire que tout n'est pas foutu d'avance. Natal et Angeli. Qui pose le dé à coudre dans lequel il a noyé ses illusions et qui va prendre son service au Super U. Toujours ce même regard craintif, d'une vitre à l'autre, comme un nœud procte coincé dans un vivarium, entre Marais et Monty. Comme s'il ignorait de quel côté les fantômes allaient surgir pour l'emporter. Et toi, Clotilde, t'es heureuse en couple? Et Pan, qu'est-ce qu'elle croyait? À jouer les donneuses de leçons, un peu orgueilleuses, limite conne. La gamine rebelle, les têtes de mort, les cheveux corbeaux. Qu'est-ce qu'elle croyait? Que Natalie n'était pas déçue, lui aussi.